On va maintenant faire un focus sur la santé, qui est vraiment un secteur à part entière des programmes d'aide, mais qui est aussi très transversal, car ça recouvre beaucoup de volets qui sont eux aussi liés au climat, comme l'eau ou la nutrition, par exemple. Donc David Desiveri, tu es spécialiste en santé planétaire chez Humanité et Inclusion. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les enjeux liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire et à la santé, si on ne cite qu'eux, sont étroitement imbriqués? Est-ce que tu peux nous donner aussi quelques exemples concrets?
Oui, je crois que si on regarde le contexte où on travaille et la complexité des enjeux qu'on a dans ce contexte, on ne peut pas se limiter à protéger l'environnement. Et un volet qui, ça a été dit, ce n'est pas toujours la priorité, au moins jusqu'ici, dans les ONG humanitaires. C'est désormais évident, et je vous invite à voir par exemple les derniers rapports du Lancet Countdown, que la crise climatique est une crise sanitaire aussi. C'est vraiment une menace pour la santé humaine. Et donc, dans les mots croisés, je crois qu'il faut placer les mots santé dans les discours climatiques. C'est vraiment fondamental. C'est peut-être intuitif d'ailleurs, mais c'est quand même challenging dans les contextes politiques actuels. Donc vraiment, je le mentionne parce que je crois vraiment qu'il faut sauver quelque part ces pouvoirs des mots et pas se réduire aux mots de pouvoir. Et pour cela, il y a des raisons très très concrètes. C'était mentionné par Chloé, l'importance de l'insécurité alimentaire croissante à cause de la sécheresse et des inondations, parfois les deux en même temps, qui sont en plus fréquentes et intenses. J'ai en tête cette image assez parlante, 2023, je crois que c'était le printemps, et on avait des images des inondations en Somalie et en même temps dans le nord de l'Italie, d'où je viens. C'était intéressant parce que ça montre une fois de plus qu'on est vraiment dans la même tempête, pas forcément sur le même bateau, malheureusement, parce que pour les inégalités écologiques et climatiques qui ont été aussi mentionnées. Mais le résultat, c'est le même, c'est une malnutrition qui progresse et ce qui entraîne, par exemple, des migrations climatiques. Donc, en effet, c'est tous des éléments liés l'un à l'autre. Mais je pense aussi à des causes et à des problèmes plus invisibles, quelque part, comme la pollution de l'air. C'est vraiment un tour silencieux, mais ça fait 8 millions de morts prématurées chaque année. Donc, juste pour avoir une idée de grandeur, même si c'est deux phénomènes complètement différents, c'est bien plus que le COVID, par exemple. Mais on n'y réagit pas de la même façon. Et ça, ce n'est pas seulement la pollution dans les grandes villes en développement, mais aussi à l'intérieur des habitations. Et ça, c'est important parce que dans ces cas, pour des raisons culturelles et normes sociales, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont plus exposés à des systèmes de chauffage ou de cuisson qui sont inefficaces. Et ça, ça entraîne des maladies respiratoires, des cardiovasculaires et même des cancers. En plus des maladies non transmissibles, on ne peut pas mentionner les maladies infectieuses. On sait que près de 60% des maladies infectieuses humaines proviennent des animaux. Encore une fois, c'est le cas du COVID, entre autres. Et cette proportion ne fait qu'augmenter, par exemple, en effet de la déforestation ou de l'élevage intensif, qui sont les deux aussi causes du changement climatique. Et en plus, il faut aussi mentionner que les changements climatiques favorisent la propagation de certains vecteurs, par exemple des moustiques, c'est le cas du paludisme. Et donc, ces problèmes touchent des régions qui jusque-là étaient épargnées. Et les systèmes de santé ne sont pas forcément toujours prêts pour ces nouveaux défis. Et alors, enfin, il y a aussi des impacts moins visibles, mais assez profonds. Je pense par exemple à la santé sexuelle et reproductive avec Handicap International, on travaille au Bangladesh. Et à cause du changement climatique, il y a la montée du niveau de la mer qui provoque la salinisation de l'eau. Ça a l'air assez indirect, mais assez concret, parce que ça rend l'accès à l'eau potable plus difficile, mais aggrave aussi l'hygiène. Et ça a des répercussions sur la santé sexuelle et reproductive, notamment des femmes et dans la région.
Merci pour ces exemples. Et on a aussi tout le volet santé mentale aussi, j'imagine.
Oui, tout à fait. C'est une thématique qui me passionne, pas seulement en tant que psychologue, mais c'est vraiment une thématique importante chez Handicap International, dans plus de 30 pays. Et je veux mentionner un étude assez révélateur, ça fait quelques années déjà, paru sur le Lancet, une interview qui a été faite à 10 000 jeunes dans 10 pays, du nord et du sud. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement, malheureusement, la confirmation de cette détresse croissante dans ces populations de jeunes, mais l'effet que c'est causé par les changements climatiques en soi, ou par les désastres, bien évidemment, parce que ça peut être très, très traumatique, mais surtout à cause de l'inaction des gouvernements. Donc, je trouve ça effectivement assez intéressant au niveau des responsabilités et des actions qu'on peut mener. Mais il faut aussi dire que tout ça, que ce soit santé mentale, santé sexuelle productive, maladies non transmissibles, infections, ça arrive davantage dans des pays où les systèmes de santé eux-mêmes sont déjà fragilisés. Et ça, c'est effectivement un problème parce que ça ne fait qu'augmenter les inégalités sanitaires. On a parlé de l'équité, et l'équité en santé, ben, c'est un reflet aussi de ce qui se passe au niveau climatique. Et ça, ça touche évidemment les groupes plus marginalisés. Ben, je pense notamment aux personnes en situation de handicap, entre d'autres, qui, en plus des limites, ajoutent déjà à l'accès à l'information, à la prévention et aux soins, ben, ils voient leur situation de santé se dégrader potentiellement ou être exposés à de nouveaux risques. Donc, en conclusion, je crois que protéger l'environnement, c'est fondamental et ça veut dire, en effet, protéger notre santé et la santé des plus vulnérables. Ça revient au même, en effet. C'est une action conjointe et intégrée.
D'accord. Donc l'approche dite « une seule santé » que tu décris dans l'article, qui dans notre jargon est plus communément appelée « One Health », il me semble. Donc c'est l'exemple d'une approche holistique, donc globale, qui associe les enjeux sanitaires à la préservation des écosystèmes et à la notion de résilience écologique, qui elle-même est étroitement liée à la résilience des populations. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette approche ?
Oui, c'est une approche fascinante, je trouve, parce qu'on commence finalement à réaliser que la santé humaine, animale et environnementale sont liées. Donc, c'est ça qu'on appelle une seule santé ou un health. C'est une idée simple, mais essentielle, je trouve, parce que ça affirme que ces trois mondes sont interconnectés. Et donc, notre santé dépend de cet espace partagé avec les animaux, avec les plantes, mais même avec les rivières eux-mêmes. Ce n'est pas un concept nouveau. Ni dans la médecine, où il a déjà fait ses épreuves, les avantages ont été démontrés, mais encore moins, par exemple, entre les peuples autochtones qui vivent depuis toujours, j'ai envie de dire, selon une vision holistique où la santé, ça dépend de l'équilibre de l'ensemble. Donc, on s'approche à cette vision-là. Et c'est une approche qui nous permet de mobiliser des professionnels et des ressources complémentaires. Et donc, à niveau de la santé humaine, à niveau de la santé animale, donc vétérinaire, les chercheurs, la communauté locale. Et le but, c'est très pratique, c'est vraiment répondre de manière intégrée à des enjeux sanitaires. Après, à niveau politique, ça prend aussi de l'ampleur et on peut mentionner, entre d'autres, l'initiative du quadripartite. C'est une alliance de plusieurs grandes agences de l'ONU, donc l'OMS, la FAO, les programmes pour l'environnement et l'organisation de la santé animale, qui collaborent pour promouvoir une surveillance intégrée des zoonoses ou encore combattre, on peut dire, sur plusieurs fronts, la résistance aux antimicrobiens. Et ça, c'est deux enjeux qui sont vraiment majeurs dans les années à venir. C'est vraiment les crises que même dans le monde humanitaire, et peut-être surtout, on va faire face dans les années à venir.
Oui, j'allais te demander, est-ce que ça se reflète tout ça dans les projets humanitaires ?
Alors, pas encore assez, et ça reste un défi. En effet, intégrer ces idées, ces approches dans les pratiques humanitaires de façon, disons, régulière, systématique, c'est pas encore toujours le cas. Il y a évidemment des défis de collaboration, de coordination et de mise en pratique et même de formation quelque part. Il y a déjà des projets en ce sens, des projets qui se montrent très efficaces. Classiquement, par exemple, des équipes mixtes pour la vaccination animale et humaine dans des zones rurales, et beaucoup plus, parfois des expériences qui ne sont pas forcément nommées ou annelées en seule santé, mais qui vont tout à fait dans cette direction. Et d'ailleurs, il y a plusieurs exercices de cartographie dans ce sens, vraiment pour un mapping des expériences, pour mettre en valeur, donner visibilité à ce type d'expériences. Par exemple, je peux mentionner un groupe de travail de One Sustainable Health, le réseau OSH. Il y a un groupe transdisciplinaire où je fais partie avec les autres co-auteurs de l'article et on vient de lancer une initiative dans ce sens, vraiment pour connaître et donc pas décider théoriquement dans l'académie plutôt que dans les Nords ce qui est One Health, mais vraiment les faire ressortir des expériences qui sont déjà en cours.
D'accord. Et parallèlement à cette approche, donc il y a aussi le concept de santé planétaire, qui, comme vous le dites, hein, je cite l'article, analyse plus globalement l'impact des activités humaines sur le vivant et vise délibérément à générer des co-bénéfices pour la santé et l'environnement. Donc si je comprends bien, on est là sur un volet qui est bien plus systémique, à plus large échelle, mais du coup, enfin, en quoi est-ce différent de One Health?
Ben, c'est une différence d'échelle, comme vous dites, mais ce n'est pas une opposition. Donc, dans la santé planétaire, on peut dire qu'on ne s'arrête pas aux maladies. On regarde vraiment nos modes de vie, l'agriculture, la production, les systèmes de consommation, comment tout ça influence, disons, la santé de la planète, qui est la nôtre. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça permet de passer d'un objectif de résilience à un de robustesse. Évidemment, je fais référence au biologiste Olivier Hamon. Et donc, c'est-à-dire que même dans l'humanitaire, un plus de faire ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire se préparer pour résister aux crises, mais on veut aussi s'inspirer du vivant et donc privilégier, par exemple, la diversité, la coopération.
Oui, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature.
Oui, c'est un bon exemple. Chez Handicap International, par exemple, on vient de finaliser une étude au Bénin sur les bienfaits de ces actions en même temps sur l'adaptation au changement climatique, sur la santé et sur la cohésion sociale et donc sur la réduction de la violence armée. Et donc, c'est un bon exemple parce que ça montre qu'une seule solution, quand c'est bien réfléchi et bien dessiné avec les communautés locales et adapté au contexte, ça permet de répondre à plusieurs défis qui sont effectivement liés entre eux. Et je crois que la santé planétaire, encore plus que One Health, ça permet d'aller dans cette direction parce que ça ajoute, disons, une quatrième dimension à la santé humaine, animale et environnementale, c'est celle qui était nommée de l'équité. Et donc, ça permet de travailler aussi sur les déterminants sociaux. Très, très récemment, a été lancé par l'OMS un rapport sur les déterminants sociaux. Et c'est aussi, il y a aussi cette partie climatique, donc c'est-à-dire comment on peut améliorer l'accès aux déterminants sociaux, donc la maison, l'emploi, les transports, l'agriculture, l'éducation, etc. Et tout en visant ces deux objectifs, donc réduction de l'impact carbone, comme a été dit, et l'équité en même temps. Après, à niveau pratique, la question de l'équité est assez concrète. Et je veux mentionner un rapport d'Oxfam, déjà sorti, ça fait déjà 2 ans, qui est assez parlant. Parce que ça montre très clairement comment les 50% les plus pauvres de la population sur la planète, en effet, subissent les 75% des pertes dues aux désastres climatiques, mais ils sont responsables seulement de 12% des émissions. Et en tout ça, encore plus intéressant, c'est qu'ils ont seulement les 2% des capacités financières de s'adapter. Donc il y a vraiment des enjeux globaux. Et c'est en pensant, c'est vraiment en mettant ces enjeux d'équité au centre de la question climatique et de la santé, évidemment, le discours devient plus complexe, mais aussi plus radical. Et ça, c'est la force un peu de la santé planétaire qui nous challenge avec un discours assez pointu, au moins pour 3 raisons. Le premier, c'est qu'il met l'accent sur l'urgence de l'action. Et on a dépassé 6 des 9 limites planétaires qui permettent la vie sur Terre. C'était mentionné avant. Et je vous invite à voir n'importe quelle vidéo du professeur Rockström du centre de Stockholm pour la résilience. Et donc, ça montre que nous sommes vraiment à un point de bascule. Donc, c'est vraiment le moment d'agir. En même temps, ces discours, ils pointent du doigt les modèles économiques. Et là, on fait face à un paradoxe de la santé parce que l'extraction des ressources fossiles, déjà, ça devient aussi une thématique de santé. Et il y a des campagnes en ce sens. Mais en même temps, cela, ça a permis des progrès sanitaires dans les derniers 50 ou 70 ans. Donc, on y a gagné, par exemple, en espérance de vie et dans plusieurs indicateurs. Mais on a fait ça à dépense de l'environnement dont notre santé dépend. Donc, maintenant, on est en train de payer les prix pour une idée de santé qui était quelque part fausse. Et alors, ça montre qu'on vit dans cette époque inédite, nouvelle, dont la sensation d'incertitude qu'on vit tous, ce qui est appelé l'anthropocène. Et ça, ce n'est pas pour mettre encore l'homme au centre, mais c'est pour mettre la responsabilité humaine au centre. Et là, vraiment, je crois que c'est une approche avec beaucoup de potentiel, très porteur, parce que ça nous pousse à repenser notre façon de qu'est-ce que ça veut dire la santé, comment on va gagner santé pour toutes et tous, mais aussi les rapports avec la nature. Il y a un rapport de UNEP qui a sorti récemment, qui est intitulé « Faire paix avec la nature ». Et ça, ça renvoie vraiment à un des derniers livres de Bruno Latour, qui parlait de renégocier avec la nature, avec les non-humains, autant que sujet politique, donc pas comme ressource. Donc, ce n'est pas seulement un objet à utiliser pour notre propre bien, mais c'est vraiment une négociation avec une nouvelle idée d'humanité, comme a été mentionné par Chloé. Donc, vraiment, ça pousse l'humanitaire à se poser des questions qui ne sont pas confortables, mais qu'on doit quand même, quelque part, se donner l'espace et le temps de le faire, parce qu'alors, peut-être, le but, ce n'est pas seulement de sauver des vies, mais de sauver la vie.
D'accord. Et du coup, donc si on en revient à l'action humanitaire, qu'est-ce que ces approches peuvent apporter en plus, en fait, si je puis dire?
Dans l'humanitaire, ces approches changent profondément la façon de travailler. Avant, on traitait, ou jusqu'ici, on travaillait séparément les questions de la santé, de l'environnement, de l'alimentation, etc., chacun avec son expertise, même tant comme organisation, intra-organisation, qu'à l'intérieur d'une organisation même. Et maintenant, il faut tout repenser et au niveau d'analyse des problèmes, mais aussi au niveau des solutions.
Ça complique la donne.
Oui, il y a des obstacles, c'est sûr. Il y en a au moins trois que je veux mentionner. C'est le manque de recherche opérationnelle. Ça freine l'application concrète de ces concepts qui, je me rends compte, sont encore très théoriques. Et l'application sur le terrain est quand même limitée. Les financements, surtout en ces moments, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont trop rares, mais c'est aussi parce qu'ils sont encore trop cloisonnés, limités à des projets courts, sectorisés. Et donc, c'est là, ça ne nous donne pas les moyens de faire face à des défis qui demandent des solutions transversales et surtout durables, un peu sur le long terme. Et alors, l'apport de la complexité, ça, il faut l'admettre, c'est, je crois, entre nous tous, entre les organisations et les staffs, parce que ça, ça freine l'adoption des approches systémiques. Donc, comment on peut se doter d'autres outils, pas pour en ajouter plus, comme a été dit, mais pour repenser la façon de comprendre les problèmes et de faire face à ce qu'on appelle des polycrises, donc des crises multiples sur plusieurs secteurs, mais qui s'imbriquent l'une entre l'autre.
OK. Mais je sens qu'il va y avoir un mais optimiste malgré ces obstacles.
Heureusement, oui, ou alors plutôt des pistes d'action, disons. Et je mentionne encore une fois les groupes de travail du réseau des One Sustainable Health, qui avec l'Université de Genève, le Geneva Health Forum et HI, viennent de publier un policy brief qui a été construit sur 2 années d'une façon assez participative, vraiment qui trace peut-être pour la première fois, j'ose dire, des recommandations les plus concrètes possibles pour l'adoption de ces approches One Health et Planetary Health dans l'humanitaire. Donc ça donne... Maintenant, tout le chemin reste à faire, mais voilà, au moins, on sait vers quoi aller.
Il y a des pistes.
Tout à fait. Après, je voudrais conclure peut-être avec, si je peux me permettre, un aspect plus personnel pour 2 raisons. La première, c'est qu'en tant que psychologue social, je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'échanger les jargons humanitaires avec des nouveaux mots, One Health, Planetary Health, etc. C'est vraiment un changement de paradigme. Et ça, c'est important parce que dans la psychologie sociale, on sait que la façon qu'on a de penser les problèmes, les framing en anglais, change la possibilité d'agir et de transformer les problèmes même. Donc déjà, ça amplifie les champs des possibles. Et après, en tant que travailleur humanitaire, depuis presque 2 décennies désormais, cette approche de santé planétaire m'enthousiasme à nouveau. Et c'est pour plusieurs raisons, parce qu'on remet l'accent sur la prévention aussi dans l'humanitaire. Et même les populations dans des crises aiguës ont droit à cet aspect de prévention, bien évidemment, parce que ça reconnecte l'action humanitaire à certaines valeurs fondamentales qui sont propres, comme la justice et l'équité a été déjà bien dit. Et alors, il nous offre une critique sociale, en plus basée sur des preuves scientifiques. Donc, c'est vraiment clair et net. Et ça nous permet de viser les vraies causes de la crise. Parce que les crises, on le sait, on l'a vu, et ça répète, certains sont simplement incontinus malheureusement,
Et donc, vraiment, s'adresser aux causes profondes, c'est vraiment très important. Et de quelle crise je parle? Oui, bien sûr, liée à la violence, mais aussi à la santé, à l'environnement, parce que, comme on a dit, sont vraiment tout connectés. Et ça, c'est vraiment très important quand on sait que les victimes de ces crises, c'est surtout, encore une fois, les populations plus vulnérables. Chez Hachi, par exemple, on pense d'abord à 1,3 milliard de personnes avec handicap, mais malheureusement, la liste est longue, des groupes injustement marginalisés qui souffrent de l'intersection de ces crises, qui a un effet prioritaire sur la santé.